Thank you, Mr. Chair, and
Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. La FIMARC appuie les déclarations de l'Égypte, du Venezuela et de Cuba sur ce thème. Et nous sommes d'accord également avec ce qui a été dit par le FIAN international en matière de les droits collectifs et les droits individuels sont deux choses qui sont complémentaires. Et dans une déclaration, dans la déclaration des droits de l'homme, concentrée essentiellement sur les droits individuels, et même après l'approbation de cette déclaration, il y a 70 ans, nous avons aujourd'hui des problèmes différents qui sont propres à nos communautés respectives, et c'est la raison pour laquelle, souvent, il faut concevoir des droits spécifiques pour des communautés qui sont vulnérables. Par conséquent, il s'agit d'aspects complémentaires de droits collectifs, même si certains États ne les reconnaissent pas dans leur contexte national, ce sont des droits dont les gens bénéficient déjà. Et cela ressort très clairement de la déclaration de nos collègues. Pour ce qui est des paysans, les terres communautaires, les terres communales, on en trouve partout, en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Et comme cela a été dit à juste titre par certains de nos collègues, pour ce qui est des communautés de bergers, de pâtres, il y a des itinéraires, des terres qui n'appartiennent à personne en tant qu'individu, mais qui sont des terres collectives. S'il s'agissait de propriétés privées, eh bien on aurait des clôtures, on aurait des gens qui disent « c'est mon terrain », mais lorsque c'est un terrain collectif, chacun peut en bénéficier. Idem pour les pêcheries. Moi, je viens d'une région côtière de l'Inde, de l'État du Kerala. Et il en va exactement de même donc pour les eaux de pêche. Les pêcheurs jouissent d'un droit collectif de pratiquer la pêche. Et si l'on veut parler de droit individuel pour les pêcheurs, ça n'aurait pas de sens. Chacun dira, eh bien, cette partie de la mer m'appartient et je suis le seul à pouvoir y pêcher. C'est absurde. Et pour la sylviculture, j'en ai déjà parlé aussi, là aussi, ce sont des droits collectifs de protéger la forêt. Il en va de même des peuples autochtones. Toutes les communautés qui sont mentionnées, eh bien, il en va de même pour les communautés de paysans. Lorsque les droits individuels ne fonctionnent pas, dans la plupart des cas, les droits collectifs permettent à ces communautés qui sont touchées de faire valoir leurs droits. Donc je ne comprends pas vraiment quel est le problème concernant le contenu de cette déclaration sur cet aspect du droit collectif pour certains pays, notamment l'intervention de l'Union européenne. J'avoue que je n'en vois pas le sens. Lorsque nous parlons de droits collectifs, l'Europe semble croire qu'il s'agit de droits nouveaux. Je ne comprends pas la logique de ce raisonnement. N'importe lequel de ces droits dont nous débattons dans cette déclaration, les pays qui parlent de droits nouveaux, semble penser que ces droits n'existent pas, qu'ils ne sont pas reconnus en droit international des droits de l'homme. C'est la logique qui sous-tend leurs arguments. Et c'est la raison pour laquelle ils pensent que cette déclaration donne naissance à de nouveaux droits ou que l'on veut accorder un traitement spécial aux paysans. Mais les paysans sont dans une situation spéciale, particulière. C'est la raison pour laquelle on discute de cette déclaration. Et donc, ces prétendus droits nouveaux ne sont pas en réalité nouveaux en droit international, puisqu'ils existent déjà dans d'autres traités ou instruments internationaux, comme cela a été signalé par un grand nombre de mes collègues. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, par exemple, est un exemple concret de l'existence de ces droits, entre guillemets, nouveaux dans des textes de droit international, notamment la question du droit à la terre, qui n'était pas acceptée par le passé par les gouvernements. Donc, il est toujours possible d'avoir des droits nouveaux et existants dans une déclaration des Nations Unies. C'est parfaitement conforme à la pratique courante des Nations Unies. Si les organes des droits de l'homme ne prennent pas d'initiative, Pourquoi hésiter à défendre des droits nouveaux? Eh bien, on crée des droits nouveaux parce qu'il y a des situations où des groupes sont vulnérables. Et si nécessaire, eh bien, c'est bien la mission des Nations Unies de les protéger en définissant leurs droits. Donc, il s'agit de formuler un droit de l'homme existant en fonction des besoins et du contexte précis de ces groupes de personnes. Je ne comprends pas non plus l'intervention des États-Unis d'Amérique. Car nous avons déjà entendu souvent des interventions de ce type qui sont faites par certains pays qui ne participent à ces négociations que dans leur propre intérêt, dans leur intérêt égoïste. Et je ne crois pas que cela reflète vraiment la réalité sur le terrain. Et je pense que les personnes que ces délégations représentent n'auraient pas le même point de vue. Et je crois que les paysans des États-Unis eux-mêmes ne seraient pas d'accord avec la déclaration qui a été faite ici. Nous parlons donc d'une cause commune et je ne pense pas que ce soit une bonne manière de vouloir interrompre un processus dans une instance multilatérale comme celle-ci. Et depuis 5 ans, nous participons régulièrement à ces réunions et nous dépensons beaucoup d'énergie et de ressources, malgré toutes les contraintes qui pèsent sur nous en tant que représentants de la société civile, dans ce processus. Il est temps de le conclure, car sinon, on ne s'occupera pas des problèmes du monde. Donc, je voudrais vraiment lancer un appel pressant à toutes les délégations pour qu'elles se montrent plus actives, plus dynamique, de façon à ce que l'on puisse parvenir à un consensus pour mettre un